Moi, je pensais que, on a décroché le corps de Jésus avant le sabbat. Et le sabbat, c'était le vendredi, le samedi. D'accord. Bon. En tout cas, voilà. Amen. Donc, voilà, comme on le sait, ben, il y a 2000 ans, il y a un acte qui a changé l'histoire du monde qui s'est passé. Il y a vraiment eu un avant et un après. Même les gens qui ne connaissent pas Jésus comptent les années comme ça. Enfin, c'est révolutionnaire ce qui s'est passé. C'est vraiment le point de non-retour de l'histoire entière et de tous les continents, quoi. C'est pas notre histoire, c'est celle du monde entier. Et donc, il y a 2000 ans, ce Sauveur, il a vraiment donné sa vie pour nous. Et ce soir, l'idée, c'est de chercher à comprendre la puissance de ce sacrifice. Et d'essayer, parce que je ne suis pas sûre que ce soit complètement possible, mais d'essayer de mesurer à quel point on a besoin de ce sacrifice et de voilà que ça aurait été pas possible autrement. Alors, je ne pense pas que ce soit possible d'être exhaustif, et puis voilà, c'est juste une soirée, donc on va parler de certaines choses, mais évidemment, il y a une infinité de choses à comprendre, et c'est surtout des choses dont on a besoin, comment dire, on a besoin d'avoir des révélations, parce que les entendre dans notre cerveau, c'est une chose, mais c'est surtout les comprendre dans notre cœur, et que ça fasse une vraie différence dans notre manière de vivre. Donc, ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est de regarder la première Pâque, c'est-à-dire la Pâque juive, autrement dit la sortie d'Égypte des Hébreux. C'est Jésus lui-même, en fait, qui est venu accomplir cette Pâque. Donc, la première Pâque, c'est comme le comment on pourrait dire, revers de médaille, non, ça se dit pas, l'autre face de la mort et la résurrection de Jésus, ça a préfiguré, c'était comme l'ombre de ce qui allait venir après, ça a préfiguré le sacrifice de Jésus. Et donc, en regardant dans cette ombre, on comprend des choses de Jésus et de son sacrifice. Donc, l'idée ce soir, c'est voilà, de zoomer sur certains détails de ce qui s'est passé en Égypte il y a 4000 ans, à peu près, 3500, je ne sais pas. Et voilà, et d'essayer de toucher des choses qui peuvent nous parler du sacrifice de Jésus. Alors, la Pâque juive, on dit Pessah. Pessah, c'est une des fêtes, une des grandes fêtes de l'Éternel. Et des fois, on a tendance à dire dans notre vocabulaire fête juive. C'est pas faux, mais dans la Bible, Dieu lui-même dit des fêtes de l'Éternel. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon Éternel. Donc, c'est aussi mes fêtes et c'est aussi les vôtres. Ça veut dire qu'il y a des choses pour nous, vraiment, dans ces fêtes. Ce n'est pas des choses qui n'appartiennent qu'aux Juifs. Alors, eux, ils ont une autre compréhension aussi avec leur culture, leur tradition. Mais il y a des choses pour nous, vraiment, dans ces fêtes. Et d'ailleurs, fête, je n'ai pas le mot en hébreu, mais c'est un rendez-vous, une convocation. Donc, on a un rendez-vous, quelque chose, enfin, un moment où on va rencontrer Dieu dans ces fêtes. On va lire Exode 12. Et juste avant, je vous donne le contexte. Je pense que tout le monde l'a, mais je le rappelle rapidement. Donc, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux sont esclaves en Égypte, et ce, depuis à peu près 400 ans. Parce que 400 ans en arrière, c'était Jacob qui était venu avec sa famille pour rejoindre Joseph pendant cet épisode de famine. Et à l'époque, le pharaon avait fait bon accueil de toute cette famille, il les avait installés au pays du Goshen, il y avait voilà, un bon rapport. Et puis le temps a passé et les pharaons suivants ont oublié cet engagement qu'ils avaient pris, ça a dégénéré et ils en ont fait leurs esclaves. Et voilà, vous pouvez imaginer la souffrance, la douleur que ça a été pendant ces 400 années d'esclavage. Et puis Dieu veut libérer son peuple. Donc, il choisit Moïse pour parler à Pharaon, faire plusieurs demandes successives, libère mon peuple, Pharaon résiste, et Dieu décide d'accomplir un jugement sur les dieux égyptiens et sur l'Égypte avec 10 plaies. Et la dernière, elle est vraiment fatale, c'est la mort des premiers-nés. Donc c'est ce contexte-là. Est-ce que quelqu'un serait d'accord pour lire du coup Exode chapitre 12 du verset 1 au verset 14, s'il vous plaît? Quelqu'un veut lire à voix haute, comme ça on est tous ensemble?
Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier, sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Encore ? Ah, jusqu'au 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Je comprends pas.
Ah, pardon. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau pour vous détruire quand je frapperai l'Égypte. Vous vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuel pour vous au fil des générations.
Merci. Donc, cette histoire, c'est un peu notre histoire d'avoir été esclave quand on était sans Christ, esclave du péché, esclave de nos angoisses, esclave des frustrations, de notre chair, enfin, de plein de choses en fait. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et pour échapper à cette mort, dans Exode 12, il y a une solution. Pour échapper au jugement, parce que du coup, c'est la conséquence naturelle, quoi. Péché égale mort. Pour échapper à cette mort, il faut un signe particulier. Et ce signe, ça fera que quand l'ange de la mort va venir, il va voir le signe et il va faire demi-tour. parce qu'il sait que ce signe, ça veut dire je touche pas. J'ai pas le droit de venir ici, je touche pas. Ce signe, en fait, c'est le signe de l'appartenance à la famille de Dieu et c'est le signe de l'alliance. J'appartiens à Dieu, je suis dans sa famille, c'est écrit sur mon âme et ce signe, c'est le sang de Jésus. Ce merveilleux sang absolument magnifique, transcendant, qui peut couvrir notre vie et nous protéger de la mort. Donc si tu as le sang de Christ, tu vis. Tu vis pour toujours. Et tu vis maintenant, tu vis pleinement maintenant, et tu vis pour toujours grâce à ce sang. Et l'ange de la mort, il fera demi-tour. Alors, la condition pour avoir ce sang, c'est bien de comprendre en fait ce que ça veut dire ce sang. Et bon, je pense que voilà, ça peut être le travail de toute une vie de comprendre la puissance de ce sang, mais il faut le comprendre, c'est-à-dire oui, confesser, je suis pécheur, je suis voué à la mort parce que je suis pécheur. Et j'ai besoin, je reconnais, j'accepte, j'ai besoin de ce sang, j'ai besoin d'un sauveur. Et ce que je trouve, enfin, j'imagine qu'il n'y avait pas besoin d'une quantité spéciale de sang sur le linteau de la porte. Peut-être qu'il y en a qui avaient juste mis un trait, peut-être d'autres qui avaient complètement recouvert. Mais bon, voilà, moi je pense que quand l'ange de la mort, il a ne serait-ce que senti l'odeur, ou vu même ne serait-ce qu'une goutte, il a fait demi-tour. Et pour moi, ça parle du fait qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur chrétien. Il n'y a pas besoin d'une piété qui dépasse celle des autres, en fait. Si vous avez le sang, c'est-à-dire si vous avez reconnu Jésus comme votre sauveur, vous êtes à l'abri. Merci Seigneur pour cette magnifique, cette grâce en fait que tu nous fais, parce que nous, on est juste pécheurs. Ce qu'on mérite, c'est vraiment la mort. Et toi Seigneur, tu nous fais vraiment la grâce de nous apporter ta vie dans tout ça. Je vais reprendre quelques passages de... Je vais garder ça, pardon. Je vais reprendre avec vous quelques passages de ce chapitre qu'on a lu. Donc au début, c'est dit, donc, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Alors avant, ça ne l'était pas, et à ce moment-là, ça l'est devenu. Moi, je trouve que quand on rencontre Jésus, bah, ça devient le début de notre vie. On naît de nouveau. Et des fois, on a beau avoir 50 ans d'âge terrestre, si on s'est converti il y a 10 ans, en fait, on a 10 ans. Et voilà, donc je trouve ça intéressant de voir que ce mois, le mois où le sang te met à l'abri, eh ben, c'est celui-là, le premier mois pour les Juifs. Un peu plus loin, on lit qu'il faut donc un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. On sait que Dieu, notre Dieu, c'est El Shaddai, c'est le Dieu des familles. Elohim, c'est le Dieu des familles. Et je trouve ça beau aussi de se dire que toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette maison, peu importe leur âge, bon alors évidemment, quand on est une famille, on vit ensemble sous un même toit. Mais c'est beau de se dire que toute la famille qui est à l'intérieur de cette maison, elle est protégée par ce sang. Et moi, personnellement, je veux réclamer et déclarer et prier que ma famille entière est à l'abri du sang de Jésus. Et voilà, c'est ce Dieu qui veut sauver toute une famille. Donc voilà, Seigneur, encore une fois, on te remet toutes nos familles, tous ceux à qui on tient. Et ça va plus loin même, quand on mange cet agneau, si on n'arrive pas à le terminer au sein d'une famille, on va chercher les voisins et on partage avec les voisins. C'est comme s'il y avait presque déjà cette idée, je ne sais pas, d'évangélisation dans le fait de devoir partager avec ses voisins. Bon, ils étaient tous juifs, mais voilà, vous comprenez l'idée. C'est que l'agneau, c'est pour tout le monde. Et c'est aussi pour vos voisins. C'est pour mes voisins à mes yeux, là où j'habite. C'est pour vos voisins. Et il y a quelque chose dans la scène, donc on est d'accord, c'est dans cette tradition-là, demandée par Dieu, que Jésus a inscrit la scène et son propre sacrifice. Et au moment de la scène, pour désigner qui va le trahir, il lui donne aussi un morceau de pain. Et moi, ça me parle de me dire que Jésus, il montre aussi qu'il est même mort pour celui qui le trahit aussi. Donc c'est vraiment pour tous, sans exception. Il n'y a personne qui peut être, qui n'est pas concerné par cet agneau. Personne. Personne de votre famille, personne de vos voisins, et même pas Judas. Donc c'est vraiment un agneau pour tous, pour toutes, dans toutes les générations et sur tous les continents. Un peu plus loin, donc c'est écrit « Ce sera un agneau sans défaut, comme Jésus. » Un mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ou même de la Bible en général, voilà, c'est toujours, c'est souvent des agneaux ou des chevreaux. C'est rare qu'on entende parler de moutons ou autres, mais en tout cas, là, c'est précisément un agneau ou un chevreau, parce que c'est le petit du grand. Donc c'est le fils. Le fait que ce soit un agneau, ça désigne vraiment le fils, ça désigne Jésus. Et voilà, il y en a un qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc dans Exode 12, c'est de cet agneau-là qu'on parle. Cet agneau parfait, sans défaut, qui, s'il avait péché une seule fois, peut-être que la mort aurait pu le retenir. Mais la mort n'a pas pu, parce qu'en fait, il n'y avait rien à retenir. On a dit au début que le salaire du péché, c'était la mort. Ben, pas de péché, pas de mort. Donc c'est pour ça qu'il a pu revenir d'entre les morts. Et il est vraiment parfait, quoi. Comme cet agneau dans Exode 12. Alors quand on mange cet agneau, on le mange complètement. On a dit on mange toutes les parties, on ne laisse rien. Et voilà, le sacrifice de Jésus, il est complet, il est total. Non seulement il n'y a aucune partie de votre vie qu'il ne peut pas recouvrir, mais enfin, il s'est donné complètement en fait dans son chemin de croix. Jusqu'à la croix, il y a plein de moments où il a donné son sang, entre la couronne d'épines, le côté, les pieds, les mains percées. Et du coup, c'est tout son corps qui a souffert. Il n'y a pas une partie qui est restée à l'abri. Il a été sacrifié complètement, comme cet agneau qu'on brûle, dont on mange les jambes, dont on mange toutes les parties. C'est comme Jésus, il s'est donné complètement. Et non seulement tout son corps a été donné quand il est mort, Jésus, mais aussi, son esprit, son âme ont vécu la douleur, la séparation avec Dieu. J'imagine pas la souffrance que c'est physique, mais j'imagine pas non plus la souffrance spirituelle d'être séparé de ton Père que tu regardes constamment, avec qui tu fais tout. Enfin, Jésus, il vivait comme ça avec le Père, ils étaient un. Et là, il est séparé de son Père. Je comprends pas vraiment ce que ça veut dire spirituellement, mais en tout cas, je comprends l'idée qu'il a rien gardé, il a tout abandonné, il a souffert dans toutes les parties de son être, comme cet agneau qu'on mange complètement. Alors on prend son sang à cet agneau et on en met sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mange. Le fait de manger l'agneau, c'est vraiment cette réalité que le sacrifice de Jésus. On a besoin de le vivre, de le sentir, de le vivre, quoi, que ce soit une réalité incarnée pour nous, et de communier avec ce sacrifice. C'est pas un sacrifice lointain, c'est un sacrifice que je mange pour qu'à l'intérieur de moi il se passe quelque chose. Et avec cet agneau, donc dans ce même repas, il y a aussi des pains sans levain et des herbes amères. Donc ce soir pour la scène, on aura du pain sans levain. Parce que le levain, comme vous savez, ça représente le péché. Donc c'est une image de Jésus sans péché, et aussi de cette sanctification à laquelle il nous appelle, qui peut être reprise à plusieurs fois dans la Bible. On est appelé à être ces pâtes sans levain. Les herbes amères, dans la tradition juive, c'est une manière de se remémorer l'amertume de l'esclavage. C'est quelque chose que les juifs pratiquent toujours aujourd'hui quand ils célèbrent Pessah, parce qu'on peut oublier aussi l'amertume de la vie sans Christ. Et de devoir le manger et de vraiment faire la grimace quand on mange le truc, c'est une manière de réaliser, de vivre physiquement aussi, de se rappeler la souffrance que c'était et la difficulté de la vie sans Jésus. Je trouve que chez les Juifs en général, dans leur culture, il y a vraiment, il y a plein de symboles qui sont plus que des symboles intellectuels, qui sont vraiment des comment on pourrait dire, des pratiques qu'on vit, qu'on expérimente, comme la scène, comme le baptême, par exemple. Et dans les fêtes de l'Éternel, il y en a plein des symboles comme ça, enfin, des gestes qui rendent les choses concrètes. Et moi, j'aime trop ça. Enfin, ça m'aide vraiment à ce que mon corps comprenne quelque chose aussi de spirituel et que ce soit un ensemble, quoi. Et puis, au verset 11, on lit, donc, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc les Hébreux, ce soir-là, ils se sont préparés parce qu'ils avaient la promesse de la liberté. Ils savaient que le lendemain, ils pourraient partir. Donc ils étaient déjà prêts à partir, en fait. C'est pour ça aussi que c'était sans levain, c'est parce que ça met moins de temps, c'est plus rapide. Ça prend pas le temps que la pâte lève, donc comme ça, on est prêt pour le départ. Et du coup, nous, ce soir, on va vraiment se focaliser sur ce moment-là, le besoin du sang de Jésus sur les linteaux de nos vies et la promesse de la liberté. On sait ce qui se passe après, dans les deux Pâques, on sait qu'ils finissent par partir et on sait que Jésus ressuscite, mais ça, ce sera pour dimanche. Là, on veut vraiment se concentrer sur l'importance du sacrifice de Jésus, notre besoin de ce sauveur, et mesurer la souffrance qui a pesé sur ses épaules pour chacun d'entre nous. Quand Jésus nous sauve, il nous sauve donc, il nous donne le salut, il nous sauve pour la vie éternelle, mais il nous sauve aussi dans notre présent pour vivre en abondance, pour ne plus vivre selon la chair, pour être libre dès aujourd'hui. Donc pour nous aider à réaliser tout ça, Alain a sélectionné des extraits du film La Passion du Christ. Sortez vos mouchoirs. Voilà, c'est une autre manière aussi, rentrer dans un film, ça permet aussi de réaliser autrement le sacrifice. Parce que ça peut être facile d'oublier la douleur. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de mal à regarder ça. Mais en fait, quand je le fais, je mesure, mais Seigneur, c'est pour moi, en fait, que tu as fait ça.